Bien, bonjour à tous, merci de votre présence. Bienvenue parmi nous pour cette conversation en compagnie de Mathieu Larnaudy. Bonjour à toi, mon cher Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Bonjour, je dois vous dire, mais pardon de te couper, que vous vous en rendez compte que Bernard Coman, qui devait participer à cette rencontre, n'a hélas pas pu venir. Il a des soucis personnels qui l'ont empêché de venir à Manosque ce week-end. Donc il s'excuse platement auprès de vous, mais là, je crois qu'il avait vraiment une urgence personnelle et qu'il n'a, hélas, été obligé de décliner. Mais je me réjouis de recevoir Mathieu Larnaudy et on va pouvoir avoir du temps pour rentrer dans ce livre que tu viens de faire paraître en cette rentrée littéraire aux éditions Actes Sud, qui s'intitule « Trash Vortex ». On y reviendra, les lecteurs te connaissent, tu as publié de nombreux livres, notamment aux éditions Actes Sud, mais pas seulement. On va parler tout de suite au début de cette conversation d'un livre qui s'intitule « Les effondrés », puisque c'est un livre qui a un lien assez fort avec ce livre-là, « Trash Vortex ». On parlera peut-être d'acharnement également. Ton livre le plus récent étant ce livre au très beau titre « Notre désir est sans remède ». Mais on va parler en particulier de « Trash Vortex », donc ce titre qui a un nom d'ailleurs un peu barbare, mais qui fait référence à ces grandes masses de déchets plastiques hein, qui traversent les océans comme ça et qui naviguent au gré des courants. C'est un livre donc qui parle ou qui aborde la question de la crise écologique, de l'effondrement potentiel et de la peur que représente cette crise climatique que l'on traverse. Et c'est en particulier un livre qui s'intéresse à la manière dont les puissants, les ultra-puissants de ce monde la gèrent, cette notion-là de peur de l'effondrement et d'apocalypse annoncée. Ce sont donc tout un tas de personnages qui naviguent dans les milieux politiques, dans les milieux d'affaires, dans les milieux artistiques et qui vont petit à petit se dévoiler sous nos yeux et montrer précisément la manière dont on gère cette chose-là lorsqu'on fait partie de l'élite et des ultra-puissants de notre monde. Il y a comme ça un certain nombre de personnages dont on va parler, un milliardaire américain qui cherche à acheter des terres en Nouvelle-Zélande, qui est très proche d'un président à la chevelure carotte. Il y a un vice-président, un ancien vice-président qui fait des films sur... le nettoyage des océans sur un bateau. Il y a un réalisateur qui a fait un film avec un bateau qui tape dans un iceberg. Et voilà, un certain nombre de personnages comme ça que l'on retrouve et qui vont dessiner ce grand roman contemporain qui nous montre à quel point cette chose-là est forte. Voilà, en introduction, un petit peu ce livre-là. Et puis, il y a évidemment ce personnage de Eugénie Vallier, qui est peut-être le personnage principal du livre, qui est une femme que l'on découvre au seuil de sa vie, qui est l'héritière d'un grand groupe industriel et qui va, d'une certaine manière, dilapider sa fortune. Mais on y reviendra sur ce personnage très important. Peut-être un tout petit mot pour commencer. Mathieu, je faisais le lien avec Les Effondrés, un livre dans lequel tu avais parlé précisément de la manière dont les puissants géraient la crise financière de 2008. Il s'agit finalement non pas d'une continuité, mais d'une même approche, pourrait-on dire, puisque là, tu t'intéresses, comme je le disais, aux puissants face à cette crise écologique. Tu fais un lien entre ces deux livres dans ton esprit, dans l'écriture ?
Oui, les deux livres sont complètement indépendants l'un de l'autre. Ils ne se lisent pas en regard l'un de l'autre, mais il y a une continuité dans la mesure où d'abord je parle plus ou moins du même type de personnage, je devrais dire peut-être de la même caste de personnalités, ce qu'on appelle un petit peu rapidement les ultra-riches, effectivement, comme tu l'as résumé, les tenants du pouvoir. J'entends par pouvoir aussi bien le pouvoir économique que le pouvoir politique et le pouvoir également symbolique, c'est-à-dire peut-être les gens qui sont les détenteurs d'une idée à travers laquelle quelque part se colorent un petit peu les formes de pensée dominantes de notre époque. Et dans Les Effondrés, il s'agissait de les mettre au regard de la crise financière des années 2007-2008, dont vous vous souvenez sans doute tous, dont on faisait souvent le récit à travers les personnes qui le vivaient, j'allais dire, depuis en bas, c'est-à-dire tous ces gens, notamment aux États-Unis, qui, après la crise des subprimes, se sont vus enlever leur maison et donc se retrouver sans rien, et en tout cas sans bien immobilier, à devoir partir sur les routes. Donc là, il s'agissait un petit peu d'inverser traverser la perspective et de voir comment les puissants avaient eux aussi quelque part, mais évidemment avec des conséquences tout autres et sans doute beaucoup moins dramatiques, vécu cette crise-là. Et au fond, là, on est aussi devant une crise avec Trash Vortex, mais c'est cette autre crise que nous connaissons, qui est la crise climatico-écologique, qui elle aussi a une incidence très forte sur la façon dont nous pensons, sur la façon aussi dont nous voyons le présent et l'avenir, et sur nos peurs. Moi, j'ai l'impression que cette espèce de peur proprement apocalyptique, c'est-à-dire la peur qui nous désigne le fait que peut-être nous risquons une extinction de l'espèce humaine, nous risquons vraiment des très graves dangers qui concernent notre identité générique tout entière. Cette peur-là, qui façonne aussi nos façons de vivre et nos imaginaires, eh bien, ce type de personnage, ce type de personnel, peut-être même politique et économique, la partage. Mais eux, ils en font quoi ? Bah, ils en font ce que l'appartenance à leur caste propre leur permet d'en faire, c'est-à-dire sans doute quelque chose d'autre que nous.
Et en l'occurrence, effectivement, c'est une des données du livre que de réfléchir à la manière dont les uns et les autres vont essayer de se mettre à l'abri. Le premier paradoxe, finalement, de ces ultra-puissants, et on le voit finalement autour de ces grandes industries, autour de ce qui est le pouvoir, c'est qu'ils sont à la fois, quelque part, et pas seulement eux, mais en grande partie, les responsables de cette crise à venir, d'une certaine manière, et qu'ils vont essayer d'être ceux qui s'en sortent, ou qui en tout cas trouvent des solutions grâce à leur puissance et grâce à leur pouvoir. Je parlais de ce milliardaire américain venu de la Silicon Valley qui, au début, arrive en Nouvelle-Zélande pour acheter des terres, pour pouvoir construire des villas surprotégées et des bunkers contre l'apocalypse. C'est à la fois ceux qui provoquent d'une certaine manière la crise et ceux qui vont peut-être essayer de s'en tirer. C'est finalement là que ça débute aussi, ce paradoxe.
Oui, c'est là que débute le paradoxe, et il débute sur un constat dont je ne suis pas le seul tenant et qui n'est pas une thèse qui m'est propre, pas du tout, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que on peut considérer qu'une frange, certes infime, mais en termes de pouvoir très importante de la population mondiale, fait en quelque sorte sécession d'avec la population ordinaire. Je cite souvent un anthropologue, David Graeber, qui est mort malheureusement il n'y a pas très longtemps, et qui a produit plusieurs livres absolument passionnants, notamment sur la question de la dette, sur la question de la bureaucratie, etc. Il avait des thèses souvent un petit peu provocatrices, et il reprenait cette phrase de quelqu'un, comme ça je vais pouvoir en plus en parler parce qu'il est mort cette semaine, qui est Frederick Jameson, un grand penseur de ce qu'on appelle le postmodernisme, qui disait, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, il disait « Il est plus facile d'imaginer la fin de l'humanité que d'imaginer une sortie du capitalisme ». Bon, c'est évidemment une phrase un peu provocatrice, mais David Graeber, lui, l'a retourné. Il disait « Non, c'est pas vrai ce que dit Jameson, malgré tout le respect qu'il avait pour lui. En fait, on est déjà sorti du capitalisme ». Alors, ça paraît un peu contre-intuitif comme ça, mais il voulait pas dire, évidemment, qu'on était sorti d'un système qui marche sur un modèle capitaliste. Il voulait dire que nous vivions aujourd'hui dans un régime de néo-féodalité où il y avait une nouvelle caste, une nouvelle aristocratie. Lui disait aristocratie, moi j'appellerais ça une oligarchie, mais on y reviendra peut-être. Et que cette caste-là, précisément, elle faisait du sécession avec le reste de l'humanité. Et évidemment, face à un problème comme celui que nous rencontrons, cette caste a une position à la fois paradoxale et très singulière, parce que ils ont en grande partie contribué à provoquer les désastres écologiques tels que nous les connaissons, par une forme de surabondance industrielle, consumériste, économique, enfin tout ce qu'on connaît, qui va de pair évidemment avec tout ce qui abîme la planète. Et puis ils sont quelque part aussi les seuls à pouvoir s'en protéger. Puisqu'ils sont les seuls à avoir concrètement les moyens pour échapper à la destinée ordinaire qui nous guette tous. Et ils en ont conscience, surtout. C'est ça le plus important. C'est qu'ils en ont conscience, et une grande partie de la pensée, quand vous vous intéressez, quand vous enquêtez sur ces gens-là, une grande partie de leur pensée consiste d'ores et déjà à prendre la mesure du problème qui vient et à chercher à s'en prémunir. Alors il y a différentes stratégies contre ça. Il y a ceux qui effectivement achètent des contrées entières en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays très protégés. C'est très bien la Nouvelle-Zélande parce qu'il pleut beaucoup. Il y a des grandes étendues vertes, des lacs, des forêts. C'est un pays relativement stable politiquement. C'est un pays, a priori, qui sera peu touché par les pires déstabilisations climatiques. Alors, ils vont là-bas, ils achètent des contrées entières. Ils y installent des grandes résidences ultra sécurisées avec des bunkers. Je reviendrai peut-être sur l'image du bunker. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'elle est héritée d'autres apocalypses possibles. Voilà, donc... Ils font ces choses-là. Donc, eux, ça, c'est ceux qui cherchent à se protéger, finalement, à utiliser leur fortune pour se protéger. Il y a ceux qui pensent à changer de corps. C'est les fameux transhumanistes, vous savez, on en parle beaucoup. Donc, eux, finalement, cet argent leur permet d'ores et déjà de muter avant même que l'espèce dont ils font partie soit réellement menacée dans ses attributs physiques. Il y a ceux aussi qui continuent à capitaliser dessus, quoi, hein, le côté un peu canard sans tête. On va au désastre, mais on continue quand même à se faire du blé tant qu'on peut. Et puis, il y a ce personnage dont tu as parlé, Eugénie Vallier, le personnage... peut-être pas principale, mais j'aime bien dire totémique, en fait, qui est au milieu du livre et qui, elle, a une autre stratégie. Elle pense tout simplement que puisqu'il n'y aura plus d'humanité future, elle n'a aucun devoir à l'égard de l'humanité et elle décide de ne pas transmettre, de ne rien transmettre, donc de ne pas léguer l'empire industriel dont elle est elle-même l'héritière et de le dissoudre, de le dilapider. Et le subterfuge qu'elle va trouver pour le dilapider, c'est de construire une fondation pour nettoyer les océans.
Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a un autre paradoxe dans ce personnage, c'est qu'on la voit effectivement vieillissante. Elle est obsédée à la fois par la mort et par l'apocalypse à venir. Donc elle considère la crise climatique comme une menace. Par ailleurs, elle a fondé une filiale à l'intérieur de cette société, ou en tout cas elle la dirige, qui s'appelle Terra Viva, qui est effectivement... une entreprise qui fabrique des bunkers. Donc là, la crise climatique, après être une angoisse ou une menace, elle devient une sorte d'opportunité de marché, pourrait-on dire. Et elle a finalement cette fondation sur le trash vortex, qui est d'une certaine manière vouée à l'échec, qui est plus pour elle une manière de dilapider son argent que de vraiment y croire, ou alors de faire un business presque de charité ou un business vert. Donc il y a chez elle vraiment ces trois dimensions qui s'accumulent et qui s'affrontent finalement à l'intérieur de ce personnage.
Oui, et qui ne se contredisent pas, ou plutôt qui se contredisent en se complétant, comme tu le dis justement. Ça peut paraître un peu paradoxal, et justement ce paradoxe, il est un petit peu au centre du roman, parce qu'on se dit, en fait, voilà, elle décide de vendre toutes les branches d'un empire industriel pour investir dans le nettoyage des océans. A priori, vous me racontez qu'un grand capitaine d'industrie vertueux se lancerait dans une opération similaire. Je trouverais ça plutôt louable. Qui serait contre nettoyer les océans? Je pense que peu d'entre nous ici seraient contre. Mais dans sa tête à elle, en fait, c'est un projet de liquidation générale. Puisque au fond, ce qu'elle détourne vers ce projet-là, c'est aussi quelque chose qu'elle ne donnera pas à l'humanité future. Alors, on y viendra peut-être. Évidemment, le livre est aussi une histoire de famille, une histoire familiale. C'est l'histoire d'un groupe industriel fondé par le père de cette femme. C'est l'histoire de comment elle a fait fleurir ce groupe industriel. Et c'est l'histoire aussi du fils qui, par la volonté ou la contre-volonté de sa mère, n'en héritera pas. Donc il y a aussi cette idée d'une non-transmission qui, je crois, est un peu représentative de choses qu'on peut observer et voir, qu'on peut vivre. C'est-à-dire qu'il y a eu des générations qui ne se sont pas souciées du monde futur, qui ont quelque part dénié aussi la possibilité... aux générations ultérieures de vivre un monde qui vient, qui soit habitable et vivable. Et voilà, elle fait aussi partie un petit peu de ces générations-là.
Ce qui est excellent dans le livre, c'est que c'est effectivement une ronde de personnages que d'ailleurs au début du livre, tu ne nommes pas par leur nom, mais par leur fonction. Il y a l'agent immobilier, il y a le directeur de cabinet, il y a la conseillère, celle qui lève les fonds. On voit se mettre en place en fait toute cette ronde autour notamment de Eugénie Vallier, des personnages comme ça qui forment une sorte de comédie humaine et qu'on va petit à petit apprendre à découvrir, qui vont petit à petit prendre chair finalement au fil du livre. Est-ce que dans un premier temps, il y avait l'envie presque de...
Quand tu as dit prendre cher, j'ai entendu dans notre sens,
ouais, mais en fait... Ouais. Deux, mais pas loin, vrais, effectivement, vrais, oui. Prendre cher et prendre
on
cher.
Peut, on peut l'écrire de deux façons.
Je te laisse la suite, mais c'est effectivement, en tout cas, quand je dis une comédie humaine, c'est d'aller voir à tous ces endroits comment les interconnexions agissent entre le politique, le monde des affaires, le monde artistique, comme tu le disais. Il y a quelque chose du grand puzzle aussi dans ton livre. C'était une vision macro que tu voulais mettre en place.
Oui, il y a quelque chose, comme tu le dis, du grand puzzle. Et puis, je crois aussi qu'il essaye de reconstituer toute une société en petit, mais qui est quelque chose qui est déjà induit par la façon dont, justement, les ultra-riches, pour y revenir, les possédants, agissent dans ce monde. Quelque chose d'assez fascinant quand vous, vous enquêtez un petit peu sur ce type de personnages, c'est de se rendre compte que, de toute façon, autour d'eux, il y a tout un écosystème. C'est des gens qui, autour de qui gravite déjà un monde en petit. Il y a, ça va du chauffeur au conseiller, au gestionnaire de fortune, au conseiller philanthropique justement, puisqu'il en est question dans le livre, mais aussi, pour prendre des personnages qui sont importants dans le livre, les légionnaires qui sont leur garde du corps, enfin voilà, donc il y a... Autour d'eux, tout un système, tout un régime, finalement, qu'on peut dire de classe, hein, d'ailleurs, qui se met en place. Et au fond, la stratification sociale, elle est déjà à l'œuvre, ne serait-ce que dans le château où ils habitent, ou la résidence sécurisée où ils prétendent se protéger. Donc effectivement, au fond, c'est aussi ces personnages de bons témoins pour interroger l'ensemble de la société et pas seulement les ultra-riches. Et c'est un des enjeux du livre. Alors, moi, j'ai souvent l'image qui me venait quand j'écrivais le livre du requin avec, vous savez, tous les poissons pilotes et commensaux qui gravitent autour, quoi, qui tournent autour, qui nagent avec, qui sont sous le ventre et qui servent à la fois, qui se nourrissent un peu sur la bête, comme on dit, mais qui servent aussi vraiment de pilotes dont les requins ont absolument besoin pour naviguer et pour vivre dans leur milieu. Et au fond, il y a un petit peu ça, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est très intéressant pour moi, en tant que romancier, de décrire tout ce petit monde. D'abord parce que, comme tu le dis, ça forme toute une comédie humaine, et puis parce qu'en soi, c'est aussi tout simplement moteur de fiction. Ça permet d'imaginer et de créer tout un ensemble de situations qui, je crois et je l'espère, sont assez significatives de la façon dont fonctionne le monde contemporain, y compris dans le rapport qu'il a à sa propre peur, pour y revenir, et à cette vision de la planète menacée face à quoi l'humanité doit s'organiser.
Peut-être tu peux nous parler de la manière dont tu as travaillé ce que j'ai évoqué, ces personnages qui nous en rappellent d'autres, des personnages réels. Il y a des échos, tu ne les nommes pas tels qu'ils sont dans la réalité. Là, tu viens de parler d'un ancien légionnaire devenu le majordome l'homme de sécurité du président de la République, qui à un moment donné tabasse des manifestants sur une petite place parisienne. Donc on le voit assez bien.
Certains font ça.
Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas ni un roman à clé, ni une satire finalement, me semble-t-il. C'est une manière de rentrer dans le réel, de prendre ces personnages, je ne sais pas, comme des archétypes, mais pas seulement. Comment est-ce que tu l'envisages, ce lien à ce qui pouvait être, entre guillemets, les modèles? On ne va pas jouer à qui est-ce, hein, mais et comment est-ce que tu as travaillé à cette dimension-là, ce lien entre la fictionnalisation et les référents qui étaient les tiens pour créer ces personnages?
Tu dis on ne va pas jouer à qui est-ce, mais en fait, moi, je crois que j'aime bien jouer à qui est-ce.
Ce n'est pas grave, on peut.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, les figures que je propose, elles, pour le lecteur contemporain, vous et moi, en fait, en lisant le livre, on fait un petit peu le même parcours que je propose à l'intérieur de ce monde-là. Et évidemment, quand je vous décris certaines personnalités, je joue aussi, à la fois pour moi et pour, je l'espère, le lecteur, avec certains clins d'œil, avec certains traits qui font qu'on va identifier ou non, d'ailleurs, des personnages. Mais disons qu'il y a deux façons dans le livre. Ce n'était pas si conscient que ça, d'ailleurs, quand je le composais, mais maintenant, je me rends compte qu'il y avait deux façons complètement d'envisager l'invention de chacun des personnages. Il y a le personnage qui est justement pas à clé, mais qui est... inspiré souvent par une figure existante, mais qui est vraiment, ou un ensemble de figures existantes, mais qui est vraiment une composition, qui est vraiment par exemple Eugénie Vallier, dont on parle depuis tout à l'heure. Bon, ça, c'est vraiment un personnage important du livre. Ce sont vraiment les personnages sur lesquels le roman repose. Et alors, ceux-là sont nommés. Il y a tout un travail sur le nom aussi à l'intérieur du livre, qui a une grande importance même dans l'histoire que raconte le livre. Donc ceux-là, ils sont nommés et ce sont des personnages, au fond, finalement, composés de façon assez classique. Vous savez, si vous prenez le roman balzacien, par exemple, on se rend compte quand on décrypte chacun de ces personnages, ils sont très, très souvent inspirés par des figures du monde social de l'époque. Quand Balzac raconte la dynastie Nucingen, cette dynastie de banquiers, il s'inspire réellement de très reconnaissables pour les gens de l'époque, qui étaient ceux des grands banquiers du Paris de la rive droite haussmannien. Donc ça, c'est vraiment une stratégie de composition des personnages relativement classique, mais que je reprends à mon profit avec grand plaisir. Et puis, c'est toujours en plus assez amusant de faire sien, comme ça, une espèce d'emblème du contemporain, de les réinterpréter pour en faire ses propres personnages. Et puis, à côté de ça, il y a des personnages qui, généralement, ne sont pas nommés et qui, eux, sont... non pas des personnages appelés par le roman lui-même, mais tout simplement des personnalités du monde environnant et souvent donc des mondes politiques et économiques. Et donc là, on peut les reconnaître. Tu ironisais tout à l'heure sur le président de la République américaine et ses cheveux carottes. Bon, bah là, on voit à peu près de qui il est question. Et alors, pourquoi ils ne sont pas nommés dans le livre ? Des fois, on me pose la question, alors j'y réponds tout de suite. C'est pas par affaîterie ou par coquetterie ou pour rajouter du mystère là où il n'y en a pas. C'est parce qu'au fond, si je vous dis au hasard Emmanuel Macron, qui est présent dans le livre d'ailleurs, vous avez directement un ensemble tout un répertoire d'images, d'idées, d'opinions. Positive ou négative, c'est même pas la question. Vous avez toute une charge déjà construite dans votre esprit qui vient s'intercaler entre le texte et la lecture. Alors que si ce même bonhomme, je le décris par quelques traits physiques ou par quelques caractéristiques dans son comportement ou dans sa façon de parler ou dans ses idées, petit à petit, il y a une construction qui vous achemine vers le personnage et qui fait qu'il prend une densité à l'intérieur du récit qu'en fait, il n'aurait pas s'il était nommé tout de suite. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en tant que lecteur. Des fois, je voyais qu'à partir du moment où un type était nommé et où je l'avais reconnu, c'était plus possible parce qu'en fait, ce qu'en disait l'auteur ou ce qu'avait à en dire, même pas l'auteur d'ailleurs, mais le livre lui-même, c'était de toute façon déjà parasité par l'image que j'en avais. Et donc, en fait, quelque part, ne pas le nommer, ça m'aide à faire advenir cette image au fil du texte, au fil vraiment du roman, et à ne pas faire que, une fois que je vous ai dit le nom d'un tel ou d'un tel, voilà, une fois que j'ai dit Macron, bon, c'est foutu, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est un principe d'élaboration des personnages auquel je tiens.
Alors, tu ne nommes pas non plus Al Gore, tu l'appelles le vice-président. Il fait des films, effectivement, sur les océans. Et ça nous permet, cette partie du livre qui est passionnante, de comprendre aussi la réalité de ces trash vortex. Et il faut peut-être qu'on y vienne. Et ce qui est la force de la littérature et la force de ton travail, je parlais d'une vision macro tout à l'heure. Il y a quelque chose de cet ordre, parce qu'on est parfois dans les cabinets ministériels, dans des endroits très petits. Et puis, on est parfois dans un regard très vaste sur le monde. Et la manière dont tu évoques ces trash vortex, tu le le fais passer à travers finalement quelque chose de singulier, puisque tu évoques la chute des containers d'un bateau, desquels s'échappent des jouets, des canards en plastique. Il y a un de ces canards que tu nommes, parce que tu te dis que ça sera plus romanesque, Ferdinand, il s'appelle. Et on comprend que ce petit canard, en fait, il traverse deux océans, qui part d'un endroit pour se retrouver sur une côte irlandaise. Et quand je dis que c'est la force de la littérature, c'est que c'est, voilà, ce petit canard, en fait, il nous fait naviguer et il nous fait comprendre les interactions et ce qui se produit avec ces courants de plastique. Peut-être tu peux réagir à cela.
Oui, alors c'est amusant parce que là, il y a pas mal de lecteurs qui me disent, mais finalement, le personnage principal du livre, c'est pas les gens dont tu nous parles, ou
Génie c'est Ferdinand.
Tout ça, c'est Ferdinand le canard, quoi. Ouais. Et alors, l'histoire est inspirée d'un fait réel. Il s'agit effectivement d'un, non pas d'un naufrage d'ailleurs, mais plutôt du naufrage résumé à 2-3 containers qui se sont échappés du cargo sur lequel ils étaient transportés lors d'une tempête et qui donc ont versé à la baille et se sont ouverts. Et ont laissé s'échapper 29 000 jouets de plastique qui sont donc partis tous d'un moment T et d'un point zéro au même moment. Et ils se sont répandus. Alors certains sont allés s'échouer sur des plages pas très très lointaines, comme on pouvait s'y attendre. D'autres ont connu des périples un petit peu plus étonnants. Ils sont allés par groupe s'échouer sur des côtes. Ça s'est passé dans le Pacifique, donc c'était surtout sur des côtes du Pacifique, en Amérique du Sud. Il y en a eu en Australie. Des endroits où on peut un peu plus s'y attendre. Et puis, des années et des années plus tard, un enfant a trouvé un jouet, un petit canard en plastique sur les côtes irlandaises et le numéro de série était encore visible. Et donc on a identifié le numéro de série, il faisait aussi partie de cette même cargaison. Les océanographes se sont emparés de cette histoire et donc ont recomposé toute l'immense épopée maritime qu'avait pu vivre ce canard en plastique. Alors, moi, si vous voulez, ce motif-là m'a intéressé sous différents aspects. D'abord, le plus important, c'est que ce personnage-là, je le trouve incroyable parce que il est non humain. Et le roman, ça raconte l'affaire humaine, quoi. Ça raconte les actes, les sentiments, les rapports de force qu'ont les hommes entre eux, ou parfois avec la nature. Mais le sujet humanité est toujours au milieu. Là, non. Mais c'est pas non plus un animal. C'est un truc un peu bizarre au milieu de tout ça, qui appartient ni au règne animal ni au règne humain, qui a une tête d'animal, qui est produit par la main de l'homme, par l'industrie humaine, mais qui est comme ça, une espèce d'objet non humain, un peu non identifié. Et alors, suivre son épopée, suivre son périple, ça permet tout simplement de raconter comment les flux marins marchent, comment ils fonctionnent, comment ils traversent la planète, comment ils la traversent de part en part, comment ils permettent comme ça à un petit objet parti d'un endroit, une nuit, de faire plusieurs fois le tour du monde en tous sens et puis aboutir dans la main d'un enfant presque au hasard. C'est évidemment, vous le devinez, pour moi en tant que romancier aussi, une image ou une métaphore de notre monde capitaliste. Là, j'y reviens, puisque ce monde où tout est interdépendant, interconnecté, et en même temps où une part d'aléatoire et de hasard a une force quand même assez inouïe. Encore une fois, lui, il part du même. Enfin, il est le seul à finir sur cette côte irlandaise.
15 ans après, je crois que c'est 15 ans après.
Ouais, c'est complètement fou en fait. Et alors, il y a eu des études très très savantes hein, d'océanographes, des thèses et tout ça sur ce brave petit canard, sur mon Ferdinand là. Et alors, on a recomposé absolument tout son périple. Et forcément, à décrire pour moi, c'est une joie de romancier inouïe parce que il a passé des mois pris dans les glaces de l'Arctique. Donc je l'imagine, lui qui était destiné à aller dans les baignoires américaines, dans, dans, dans des bains à bulles avec des enfants qui joueraient avec. Ben là, il est dans la grande baignoire de l'Arctique, au milieu de rien, pris dans les glaces. Et puis l'été, il est libéré des glaces, il fait encore quelques centaines de mètres. Et puis l'hiver revient. Enfin, tout ça est très long. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé imaginer l'épopée de ce canard Ferdinand, cher à mon cœur, comme vous l'entendez. Mais aussi parce que je crois que ça raconte quelque chose d'assez inouï sur la façon dont marche le monde contemporain. Et puis, encore une fois, j'y reviens parce que cet objet-là, il montre aussi ce qu'il y a d'indiscernable entre la culture et la nature, pour le dire avec des catégories un petit peu hâtives. On voit bien qu'il est absolument une créature de ce qu'on appelle l'anthropocène, ce moment où l'action de l'homme sur la nature et l'action de la nature en retour vers l'homme sont absolument indiscernables.
Je comprends pourquoi tu m'as repris tout à l'heure lorsque j'ai dit que Jenny était le personnage principal, voilà. Puisque en fait c'est Ferdinand. Peut-être on peut avancer aussi sur. Tu disais tout à l'heure que le capitalisme était sans fin d'une certaine manière, et c'est vrai que ce que fait finalement Eugénie Vallier, c'est-à-dire cette filiale autour de la construction de bunkers, Terra Viva, c'est vraiment peut-être le cynisme poussé à son extrême ou le marché poussé à son extrême. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Il y a cette idée que d'abord, tu vas faire des profits avec des nouveaux marchés, avec des nouveaux besoins, ce qui est le système même du capitalisme. Et il y a cette idée qu'au fond, tu vas accompagner le monde. Je crois qu'il y a cette phrase jusqu'au bout. Dans son agonie. Donc on est là peut-être dans ce qu'il y a de plus significatif dans l'impossibilité d'arrêter la vague capitaliste et en même temps quelque chose qui, pour autant, mène à notre fin ou à sa fin intrinsèquement. Tu peux nous parler de ça, il me semble, c'est une dimension. Et tu parlais d'ailleurs de la dimension historique du bunker qui est évidemment quelque chose qu'on ressent au fil du livre.
Il y a une espèce de pulsion de mort absolument invraisemblable qui est à l'œuvre dans le capitalisme, puisque c'est précisément cette soif de profit qui, en même temps, précipite à la fois le monde et ses acteurs vers une voie sans issue. Voilà, c'est un monde qui court à sa perte, le monde le sait, mais tant que ça peut rapporter encore quelques sous, il continuera d'y courir. Donc, au fond, Eugénie Vallier, elle partage cette idée-là, et elle est tellement... C'est une vision très nihiliste du monde. Hein. Alors, je précise que c'est la vision du personnage, de ce personnage-là, qui n'est pas partagée par tous les autres personnages du livre et qui est par ailleurs, je pense, pas l'humeur globale du livre. Mais elle, en tout cas, elle est vraiment dans cette perspective nihiliste-là. Au fond, comme les héros des romans russes. Moi, je me disais, cette dame, si vous me permettez la comparaison, elle peut avoir quelque chose de dostoïevskien. C'est, voilà, chez Dostoïevski, puisque Dieu est mort, alors tout est permis. Elle a dit, puisqu'il n'y aura pas d'humanité future, alors c'est pas que tout est permis, mais on n'a plus aucun devoir vis-à-vis de l'humanité. Donc elle est dans cette espèce de perspective-là, et au fond, construire des bunkers, aider les ultra-riches à faire cette sécession, c'est encore une manière... de participer à la fin du monde. Donc, quelque part, de la souhaiter, de la hâter, de contribuer à sa venue. Et je me suis inspiré pour penser ce personnage, pour le fantasmer dans un premier temps et puis pour l'imaginer ensuite. Je me suis servi, vous savez, de ces sectes dont Gershom Scholem parle dans l'histoire de la mystique juive. Je vais pas rentrer trop là-dedans, mais où il raconte comme ça que des gens, par leurs actions, essayaient de faire venir le Messie, de hâter la venue du Messie, c'est-à-dire pour eux la fin du monde, puisque la venue du Messie, dans ces courants de pensée-là, équivalait à la fin du monde. Et cette chose-là qu'on a retrouvée tout aussi bien dans le christianisme ultérieur, où d'autres sectes cherchaient par leurs actions, par leurs prières, mais aussi parfois par leurs actions néfastes, à faire venir, non pas le Messie, puisqu'il était déjà venu pour les chrétiens, donc le faire revenir, le faire venir une deuxième fois, la fameuse parousie, qui est le moment, là encore, du jugement dernier, c'est-à-dire de la fin du monde. Donc en fait, elle est pétrie un peu de ces histoires de représentation qui vont de pair avec la pensée européenne et la pensée religieuse et mystique presque ordinaire, quoi. Voilà, nous aussi, on a nos représentations du paradis, de l'enfer, du purgatoire. On sait ce que c'est que le jugement dernier. Quand bien même on n'y croit pas du tout et que ce qu'en donne Eugénie Vallier est une version totalement profane, séculaire et dénuée de toute dimension mystique, elle est quand même un petit peu habitée par ces idées-là. Donc oui, c'est quelqu'un qui pense que le monde court à sa perte et quelque part, comme elle-même va mourir... Elle en appelle au fait que le monde va mourir avec elle. Et elle le souhaite. Et capitaliser là-dessus, en dirigeant une société, qui est la seule chose qu'elle lègue à son fils, d'ailleurs.
Oui, pour faire de lui un profiteur d'Apocalypse.
Pour faire de lui un profiteur d'Apocalypse. Elle lui dit, t'auras rien, mon fils, mais t'auras ça. Voilà, ça te suffira, puisque de toute façon, les gens vont beaucoup mourir dans les années qui viennent. Donc, tu pourras, voilà, c'est tout. Et... Alors, évidemment, l'image est à la fois cocasse et sinistre. Mais en lui léguant ça, elle considère qu'elle a largement fait le job quand même, quoi. Mais évidemment, elle cherche aussi à faire venir, à faire advenir cette fin du monde. Et voyez bien à travers ça aussi que les gens qui pensent décréter eux-mêmes de la fin de l'histoire, c'est s'arroger un pouvoir inouï. C'est décider de quelque chose dont on ne devrait pas avoir à décider. Ça concerne les autres, ça ne te concerne pas toi.
Tu as parlé du fils, justement, et c'est une des parties importantes du livre. Alors, c'est intercalé hein, dans le livre, c'est entremêlé à la narration, le moment où le fils prend la parole. D'ailleurs, lui aussi, même si ce n'est pas un personnage avec une référence existante, on découvre son prénom tardivement. C'est encore une autre question, mais je fais plusieurs incises dans ma question. Mais tu parles du fils, et en effet, il prend la parole pour raconter l'histoire d'André Vallier, donc son grand-père, le père d'Eugénie, la manière dont cet empire a été construit, les relations avec sa fille. Donc il y a toute cette dimension intime, à la fois de l'héritage, de ce qu'on lègue, de ce qu'on ne lègue pas précisément. Et puis il y a évidemment en miroir la question de ce qu'on lègue aux générations futures, cette question de l'écologie, de la crise écologique. Il y a évidemment cette question, oui, de l'héritage, de ce qu'on laisse en héritage. Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'entrer aussi dans l'intime? Il me semble que c'est ça, finalement, la prise de parole de Sacha, c'est de ramener la question de l'héritage à l'aspect intime, peut-être pour le mettre en regard d'une question plus vaste sur ce qu'on lègue aux générations futures en termes d'environnement et en termes climatiques.
Oui, parce que tous ces grands mouvements qu'on décrit depuis tout à l'heure, ils sont quand même très incarnés dans le livre, enfin je l'espère, et notamment à travers une histoire familiale. L'histoire donc de presque de ce triangle, au fond, que forme le grand-père, donc le fondateur du groupe industriel, la mère, qui en est l'héritière, et puis le fils qui n'en sera pas à son tour l'héritier, puisque l'héritage lui est dénié, lui est spolié... par sa mère. Le roman est aussi une variation sur le roman d'héritage, qui, comme vous le savez, a toute une immense tradition dans la littérature européenne, française et russe notamment, mais aussi notamment d'Europe centrale. D'ailleurs, je pensais assez régulièrement, en écrivant le livre, au bouquin de Thomas Mann, Les Buttenbrock, je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous l'ont lu, c'est un livre absolument extraordinaire, qui raconte, au fond, alors avec... dans un tout autre monde et de tout autre coordonnées, mais qui raconte une dynastie de commerçants. Alors là, c'est des commerçants au bord de la Baltique, voilà, ils affrètent des bateaux, mais c'est un peu la même chose dans la mesure où c'est aussi un empire qui commence, qui croît, qui connaît un essor très flamboyant et puis qui s'effondre après. Donc il y a quand même encore cette grandeur et décadence, hein, ce schéma qui marche quand même assez, un peu toujours dans la narration. Et là, bon, je me suis beaucoup inspiré de ça. Et donc c'est effectivement une variation sur le roman d'héritage. À ceci près que nous sommes, nous, dans une époque où on commence à se demander s'il est possible de transmettre, de léguer quoi que ce soit. Donc c'est aussi un anti-roman d'héritage dans la mesure où c'est un moment où on se dit est-ce que simplement l'héritage est possible et des deux côtés, au fond. Est-ce qu'il est possible soit de léguer quelque chose et puis surtout, est-ce que les générations futures pourront recevoir cette chose-là. Donc le livre essaye de prendre acte aussi de cette grande question posée à l'humanité, de la transmission, tout simplement. Si l'humanité est menacée, évidemment que nous ne transmettons pas du tout de la même façon et pas la même chose que si on transmet quelque chose qui est justement en train de produire un grand élan vers l'avenir, quoi. Et ça, si vous y réfléchissez, à l'échelle d'une vie, quelqu'un qui a aujourd'hui 60, 70 ans, il a connu par rapport à cette question de l'héritage et de la transmission des configurations extrêmement différentes, avec des années 60, 70, où quand même l'humanité était dans une vague de développement quasi continue, et puis aujourd'hui, au contraire, quelque chose on a du mal à imaginer des perspectives futures très, très florissantes. Alors, je ne dis pas ça du tout pour vous déprimer, hein, mais c'est vrai que l'image principale qui nous traverse n'est pas en ce moment la plus joyeuse qui soit. À charge pour nous, peut-être, que le monde soit moins sinistre que ce qu'on nous vend. Ça, c'est ce qu'on souhaite tous. Mais voilà, le roman, en tout cas, il prend acte de cette difficulté contemporaine d'imaginer l'héritage, et donc, quand on est écrivain, d'imaginer le roman d'héritage.
Tu as parlé à plusieurs reprises de romans russes, et il y a un personnage qui est un oligarque russe, qui s'appelle Kouritchev, je crois, si je ne me trompe pas. Et ce personnage-là, il met en jeu aussi une autre dimension, il me semble, parce que je parlais de liens, on a parlé des différents liens, il met en jeu un lien au pouvoir militaire, pourrait-on dire, et à la guerre, puisqu'il est en lien très fort avec, effectivement, les événements qui peuvent se produire aujourd'hui en Russie. Et il met autre chose en jeu, c'est qu'il convoque deux jeunes architectes qui viennent au fin fond de la Russie pour lui construire cette sorte de datcha furtive, et qui sont, me semble-t-il, un symbole aussi de la manière dont tout cela marche ensemble, et dont, finalement, deux jeunes architectes à l'autre bout du monde se retrouvent embringués dans une histoire de cet ordre-là. Ces deux questions en une, le lien au pouvoir militaire et la manière dont ça résonne à des endroits où des gens participent sans se sentir coupables, si je devais le dire un peu simplement. Il me semble qu'autour de cet oligarque, il y a tout ça.
Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure de modèle oligarchique. Donc évidemment, l'oligarque, il est aussi l'incarnation dans le livre de ça. Et au fond, il est même un peu plus que ça. C'est pour ça que c'est un personnage très important du livre, je crois, un des personnages principaux aussi, dans la mesure où il incarne ou il propose dans le récit un lien avec l'histoire du XXe siècle et avec l'histoire de cette autre fin du monde possible. Qu'a été la fin du monde du bloc de l'Est, donc du monde soviétique, qui n'aura pas duré très très longtemps, mais dont nous avons, nous, vécu la fin, dont on a connu l'effondrement, dans des conditions dont vous vous rappelez, et dans des conditions dont ont profité un certain nombre de personnages, qui ne sont pas si nombreux, mais qui étaient quand même plusieurs centaines, plusieurs milliers, ceux qu'on a appelés ensuite les oligarques. Et ce personnage, donc, il fait lien avec cette histoire-là. Et pour moi, cette histoire, elle est quand même hyper importante parce que c'est aussi le moment où le récit qui pouvait contrebalancer le récit occidental disparaît. C'est le moment aussi où le monde s'unifie, puisqu'il n'y a plus qu'un seul modèle qui vaut dans le monde entier à partir de ce moment-là, le modèle capitaliste. Et donc, lui, il porte toute cette histoire-là, il charrie toute cette histoire-là, et quelque part, il est à la pointe de ce qui est en train de devenir le monde contemporain. Il a déjà un peu tout compris parce que lui, il sait déjà ce que c'est qu'un monde qui s'écroule. Il l'a déjà vécu. Et par ailleurs, Eugénie Vallier, c'est aussi une des caractéristiques dans l'histoire de ce personnage, c'est une femme qui a également participé à l'effondrement de ce monde-là, du monde soviétique, puisqu'elle a fait partie, et ça, il y en a, enfin, je veux dire, je me suis inspiré de gens qui existaient, elle a fait partie vraiment des gens qui ont permis à des banquiers de prêter de l'argent à ce qu'on a appelé les oligarques pour qu'ils puissent racheter tout l'appareil de production et toutes les entreprises commerciales collectives, donc d'État, et pour pouvoir les privatiser et que ça passe sous leur coupe. Donc toute cette histoire-là est aussi racontée dans le livre à travers le personnage de l'oligarque. Et pour répondre à ta question sur le lien avec le monde militaire, bah justement, c'est la même histoire. C'est là où on voit que de toute façon, les armes, les médias, et puis l'industrie, ça marche ensemble. Et puis la politique, évidemment, qui va aussi, qui est le quatrième élément de la même histoire. Et enfin, l'histoire de l'oligarchie russe, elle incarne ça de façon décuplée, de façon presque caricaturale, et tellement caricaturale qu'elle en est sidérante. Donc voilà. Et pour moi, je ne pouvais pas raconter ce qui se passe dans le capitalisme contemporain sans avoir aussi une pensée pour cet effondrement-là, justement.
Et c'est fascinant quand même, parce que là, on évoque les choses en regardant les grands enjeux, en sortant les personnages. Mais le livre, c'est avant tout un roman qui va vite, qui accélère comme ça, et qui est une vraie, je disais, comédie humaine. On est dans les bureaux ministériels, on est en Nouvelle-Zélande, on voyage jusqu'à Venise, d'ailleurs, à la fin du livre. Il y a quelque chose qui se joue comme ça, dans une rapidité, et véritablement dans un roman romanesque. Comment est-ce que tu as procédé pour arriver à garder, justement, cette tension romanesque? On lit ça avec une sorte de plaisir fictionnel, en fait, romanesque, très simple, avec toutes ces strates, malgré tout, à la fois d'enjeux graves, évidemment, qui nous préoccupent, et toute cette dimension de documentation, de regard porté sur le monde. C'était un enjeu pour toi de garder cette vitesse, cette rapidité romanesque, ou en tout cas cette incarnation-là?
Oui, complètement. D'ailleurs, c'est vrai que là, j'en parle en essayant plutôt de dégager les enjeux et en oubliant un petit peu le mouvement du livre. Mais tout ça, évidemment, dans le livre, ça s'incarne. Ça passe par des personnages, ça passe par des situations, ça passe par des lieux, beaucoup. Et ça passe aussi, justement, par la multiplication, l'alternance des lieux. C'est un livre très voyageur, en fait. On commence en Nouvelle-Zélande, comme on l'a dit, mais on va aussi dans l'Altaï, on va à Dubaï, on va dans un petit château dans la lointaine banlieue de Paris. On est comme ça un peu transbahuté d'un endroit à l'autre, qui évidemment ne sont pas des endroits neutres, qui sont des endroits où quelque chose de cette histoire prend lieu. Et on va jusqu'à Venise. Pourquoi ? Parce que le roman raconte avant tout l'édification de cette fameuse fondation. Cette fameuse fondation philanthropique qui a pour vocation de nettoyer les océans. Le fil rouge réel du livre, et ce que je raconte de façon d'ailleurs, je crois, assez détaillée, c'est comment on crée une fondation de cette amplitude. Voilà. Et cette fondation, son siège, il va être situé à Venise. Alors, pourquoi à Venise ? D'abord parce que toutes les fondations ont leur siège à Venise, quasiment. Non, mais c'est vrai, c'est assez sidérant, que ce soit les fondations artistiques ou philanthropiques, elles ont toutes soit leur siège, soit au moins une antenne à Venise. Venise a cette grande tradition-là, qui n'est pas nouvelle, hein, qui date du Moyen-Âge. Il y a aussi cette idée assez fascinante avec la ville de Venise, que c'est à la fois la ville la plus menacée, la plus résiliente du monde. C'est une ville qui s'est construite dans la perspective de sa ruine et de son effondrement possible, et dont toute l'histoire coïncide avec la façon dont elle lutte contre cette perspective-là. C'est fascinant quand on lit les histoires de Venise. C'est d'ailleurs très très beau. Et c'est d'autant plus intéressant que ça se fait dans un milieu naturel très très particulier, comme vous le savez, c'est la fameuse lagune. Mais en fait, la lagune, on dit... Quand on prend des fois le bateau, qu'on va loin sur la lagune, on a l'impression d'être au milieu des oiseaux, des roseaux, on a l'impression que c'est un milieu archi-naturel, préservé, etc. Mais pas du tout. La lagune est un des milieux les plus travaillés de main de l'homme, en adéquation justement avec son milieu naturel, depuis le 5e siècle, quoi. Donc ça date pas d'hier. Donc ça m'intéressait aussi beaucoup de choisir Venise pour cette chose-là. Et puis il y a aussi, tant que je suis lancé, j'explique pourquoi Venise. Il y a aussi un truc très très particulier et très beau à Venise, qui est sur l'île de Torcello. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient, où se trouve la plus vieille basilique de la région. et où se trouve notamment un jugement dernier, qui est une mosaïque, et qui donne l'archétype de toute la représentation des jugements derniers ultérieurs en Italie, mais c'est-à-dire dans notre culture, en fait. Dante s'est inspiré de cette mosaïque-là pour créer le paradis, l'enfer. Alors, pas le purgatoire, parce que sur la mosaïque, le purgatoire n'est pas représenté pour une raison très simple, c'est que le purgatoire est une création théologique tardive. À l'époque, il n'y avait pas de purgatoire. Il y avait un paradis, il y avait un enfer, il n'y avait pas un endroit où vous attendiez. Voilà. Donc ça, le purgatoire, ça vient après. Donc ça a été évidemment intégré dans la plupart des représentations, qu'elles soient picturales ou autres, ultérieures. Mais ça m'intéressait aussi évidemment beaucoup, comme un clin d'œil, d'écrire un livre qui parlait de l'imaginaire possible de la fin du monde et qui se finisse à un endroit où c'est presque l'archétype de notre vision de la fin du monde qui s'y trouve condensée dans cette magnifique fresque, enfin dans cette magnifique mosaïque, qui est vraiment sublime en plus. Voilà. Donc voilà, il y avait plein de raisons.
Il y a la mort à Venise aussi, on n'en dira peut-être pas trop, mais il y a aussi le film, et il y a aussi Tadzio, et il y a aussi l'éternelle jeunesse.
Absolument, que je convoque dans le livre.
Qui est présente, et qui fait d'ailleurs référence à un livre, un des deux livres qui sont sur la table de chevet de Génie Vallier, puisqu'il me semble que le livre de Opalka est aussi un livre qui dit le rapport au temps, au vieillissement et à la fin. Alors là, je vais chercher vraiment, mais il faut aller voir ce qu'il y a dans le tiroir de Génie Vallier, autrement.
Oui, ça, ce sont des indices d'interprétation du texte qu'on dispose, vous savez, comme ça, un petit peu comme des clés, et qui permettent, j'espère en tout cas, au lecteur, là aussi, de jouer un peu, d'avoir différentes strates d'interprétation. Et le livre est aussi, je crois, une sorte de méditation sur le temps. Et plus exactement sur le temps individuel, mais aussi le temps historique, puisque vous voyez bien qu'en fait, ma vieille Vallier, là, ce qu'elle veut, elle, c'est arrêter le temps, c'est pouvoir décréter qu'elle a la force, avec toute sa fortune, en ne l'alléguant pas, de décider du moment où l'histoire s'arrête. Mais son fils, il ne l'entend pas comme ça. Lui, son fils, pour lui, l'histoire, elle continue. Donc en fait, il y a comme ça qui traverse le livre une espèce de ligne de tension entre cette idée que le temps peut avoir une fin, que l'histoire est vouée à une issue, et puis l'idée que non, que l'histoire reste toujours un processus ouvert.
Dernière question, puis je me tournerai après vers les lecteurs, puisqu'on parle de la mort à Venise, et je l'ai évoqué au tout début, il y a un autre film qui est au cœur du livre, c'est Titanic, et c'est intéressant parce que là aussi tu développes finalement un certain nombre de choses sur la métaphore, presque l'allégorie du Titanic, sur l'obstacle, sur la course folle, sur l'appropriation de la nature, même, on pourrait dire, ou des océans. Tu peux peut-être, pour finir, nous parler de cela, parce que c'est aussi une manière de comprendre le mouvement du livre, il me semble.
Tu sais, en fait, c'était surtout parce que je voulais mettre Leonardo DiCaprio.
Ah ouais, ouais. Oui, sauf que le réalisateur, lui, il veut pas crever comme Jack dans l'océan glacial.
C'est vrai, c'est vrai. Non, alors, en fait, comme vous l'avez compris, donc le film fait référence à celui de James Cameron. Il se trouve que James Cameron fait partie des richissimes Américains qui ont acheté des terres en Nouvelle-Zélande. Et alors, je trouve incroyable que ce type qui a représenté cette allégorie, comme tu le dis très justement, de la catastrophe, lui-même en est peur à ce point de la catastrophe, et déjà un petit peu. Et c'est d'autant plus intéressant que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, et pas seulement de Leonardo. Il est question, c'est vraiment mis en scène de façon assez précise, un peu caricaturale, mais précise. Il est vraiment question de lutte des classes à l'intérieur du livre. C'est vraiment selon leur classe, leur appartenance de caste. Les gens ne sont pas situés dans le même endroit du bateau, et donc au moment où survient la catastrophe, ils n'ont pas les mêmes chances de survie concrètement. Il y a ceux qui sont riches et qui vont pouvoir très vite être sur les canaux. Vous vous souvenez peut-être, les canaux ne sont même pas remplis, hop, on les jette à la baille, et puis eux, c'est bon, ils vont vivre, ils sont préservés. Et puis pendant ce temps, les plus pauvres sont dans des fonds de cale qui se referment comme des souricières. Ils sont oubliés. Et quand ils arrivent à s'en délivrer et qu'ils arrivent sur le pont du bateau, il est déjà trop tard, il n'y a plus de canaux et le désastre est en cours. Évidemment, c'est une métaphore quand même absolument très forte d'abord, et puis je crois très juste de ce qu'on disait au début, quoi, de la répartition sociale que contient l'idée de catastrophe. Et c'est vrai que je trouve c'est assez fou que la personne qui a mis ça en scène soit lui-même parmi maintenant les ultra riches qui essayent de se protéger contre ça. Au-delà de ça, le Titanic, vous savez, c'est passé dans le vocabulaire courant, quoi. C'est vraiment une société qui meurt, on dit, mais c'est le Titanic. Voilà, c'est un moment paradigmatique, allégorique de toute civilisation au moment de sa fin, au moment de sa catastrophe. Et pourquoi ? C'est parce que non seulement le Titanic a été une prouesse technologique dont on a vu à la fois l'aberration et la vulnérabilité dès le premier voyage. C'est ça qui est quand même génial. Le truc est lancé, puis paf, ça pète. Bon, c'est quand même fou comme truc. Mais surtout, ça annonce, évidemment, c'est l'accès le plus fort, ça annonce la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a lieu juste après. Et au fond, le Titanic n'est qu'une espèce de galop d'essai pour montrer la folie vers laquelle la civilisation européenne, sa technologie, sa croyance en la vitesse, dans le progrès, dans les équilibres sociaux, justement, toutes ces choses-là va voler en éclats avec cette autre forme d'apocalypse, justement, qui vient, à savoir la Première Guerre mondiale. Donc c'est évidemment une image très, très puissante. Et moi, cette image-là, je la balade au cours du livre. Elle revient plusieurs fois. Quand mon petit canard Ferdinand... mais ça c'est vrai en plus, j'ai rien inventé. À un moment, il traverse l'Atlantique et il passe quasiment à la verticale de l'endroit où se trouve l'épave du Titanic. Donc évidemment, j'allais pas ne pas le raconter, ne pas le décrire. Donc voilà, c'est un moment aussi où je fais revenir ce motif. Et puis à travers le personnage de James Cameron, c'est aussi évidemment ça qui revient. Et puis plus vers la fin du texte, je raconte aussi cette autre figure complètement aberrante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a des gens, des millionnaires, parce que ça coûtait quand même 250 000 euros hein, le voyage, tout le monde ne peut pas se le payer a priori, qui voulaient aller voir l'épave, quoi. Ils voulaient aller sur place. Bon, et ils sont montés dans un petit submersible qui a implosé au bout de 2 heures, et on les a cherchés avec un grand renfort de moyens, etc., pendant des jours, alors que, on s'est vite rendu compte que, de toute façon, il n'y a absolument aucune chance de les repérer et de les retrouver, et qu'en fait, on le savait tout de suite. Mais il fallait quand même faire croire, parce que c'était des gens importants, que toute une batterie de moyens était mise à leur disposition pour essayer de les sauver et de les retrouver. Bon, vous voyez bien à chaque fois comment mon Titanic, il me permet de raconter plusieurs figures de la catastrophe qui sont peut-être toutes des figures de la même catastrophe.
Ce qui est bien en littérature, c'est qu'on peut se faire un casting vraiment 5 étoiles, Leonardo, le canard Ferdinand, on prend tout le monde et ça coûte pas cher. Donc
Patrick
c'est...
Bruel, ouais. Ouais, Patrick Bruel.
Je ne sais pas si vous souhaitez, il y aura un temps bien sûr de dédicace et de discussion plus informelle avec Mathieu si vous le souhaitez, mais si vous voulez intervenir, oui allez-y, je vous en prie. Allez-y, ça fonctionne.
Est-ce une utopie ou idiot de dire que l'on peut sauver le monde par l'art ? C'est difficile.
Vous avez 2 heures, Mathieu.
Là, comme ça, de but en blanc. Je réfléchis, hein, pardon. Alors, c'est une utopie, oui. Après, la question, c'est est-ce que l'utopie est réalisable ? Moi, je crois assez peu à la vertu curative ou réparatrice de l'art, à dire vrai. Je ne pense pas que ce soit sa fonction. Après, voilà, la façon dont on travaille, dont on interroge les imaginaires contemporains, on peut espérer au moins que les quelques personnes qui vont s'emparer du livre, ça les fasse travailler aussi, et donc qu'on va partager avec eux ou participer avec eux à une évolution dont on peut penser qu'elle rendra pas le monde plus invivable, en tout cas. Ça, oui. Après, vous dire qu'un livre peut sauver le monde, je crois que c'est assez peu arrivé dans l'histoire de l'humanité. Il y a peut-être des livres qui ont hâté, par contre, qui ont fait venir les problèmes. Oui, ça c'est arrivé. Non, après, à un stade plus individuel, là, j'aurais plutôt tendance à vous dire oui. À un stade plus individuel, quand vous lisez ou quand vous écrivez pour ceux qui écrivent ou quand vous écoutez de la musique, enfin voilà, quand on a un rapport intime et fort et personnel à l'art, je pense quand même que c'est aussi quelque chose qui à la fois vous fait comprendre probablement le monde tel qu'il est, y compris dans ce qu'il n'a de pas réjouissant, éventuellement, mais ça aide à y vivre quand même, assez largement. Moi, je ne sais pas comment j'arriverais à vivre dans ce monde-là si j'écrivais pas des horreurs.
Allez-y.
D'abord, merci à tous les deux pour cette magnifique rencontre. Mais je voulais poser une question particulièrement à Mathieu, c'est comment il construit sa phrase. Parce qu'une fois qu'on rentre, on tourne les pages, on cherche un peu un point de temps en temps pour respirer, et tout est superbement construit. Il n'y a jamais de... Quelle est cette magie un peu de la phrase? Comment elle est travaillée?
Ah ben si c'est une magie, je ne vais pas donner mes recettes. Non, plus sérieusement, oui, alors peut-être pour les gens qui n'ont pas forcément regardé à quoi ça ressemble, effectivement, les phrases sont souvent assez longues, mais... Je dis assez facilement au lecteur, d'ailleurs, de ne pas se laisser du tout effrayer par ça. C'est pas parce qu'on voit pas tout de suite que le point il est à la phrase ou à la ligne suivante que ça pose problème. C'est un peu, le livre raconte une histoire de courant. Bon ben, qu'à cela ne tienne. Faisons de la phrase un courant. Et un courant, ben, c'est pas bien compliqué. On se mouille la nuque, on se met dedans et on se laisse porter. Bon, peut-être se mouiller la nuque, j'en sais rien. Mais et encore, quand il fait beau, c'est pas la peine. Donc, ça a l'air d'être une pirouette, là, ce que je fais, mais en fait, je crois que c'est assez la perception que j'en ai, moi aussi, en l'écrivant. C'est-à-dire faire de la phrase un courant, faire de l'écriture ce courant par lequel je me laisse également porter, et qui... En fait, l'idée de faire une longue phrase, c'est pas gratuit. C'est que ça dit quelque chose vraiment de la réalité que je décris d'abord, et puis que ça me permet parfois d'embrasser dans le même mouvement, dans le même flux de langage, une réalité qui souvent brasse des choses hétérogènes. Justement, ça permet de mettre en continuité ou de mettre en connexion, de mettre en relation Leonardo DiCaprio et puis Mon Canard Ferdinand. Je reprends les motifs dont on a parlé, mais voilà, pour essayer aussi de montrer comment tout ça fabrique une histoire tous ensemble. Et puis je crois que c'est pour y revenir aussi un moyen de décrire le monde tel qu'il est. Puisque moi, je pense que quand on s'intéresse au monde tel qu'il est structuré, tel qu'il vit, c'est pas des petites entités séparées. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut raconter. Mais ce que prend le parti de décrire le livre a besoin d'un mouvement un petit peu large.
Madame, allez-y, on va vous faire passer le... Allez-y.
Donc je commence aussi par vous remercier. Vous avez parlé d'utopie, donc je vais vous poser une question à propos de l'utopie concernant les ultra-riches qui se construisent des bunkers, qui construisent des murs, etc. Donc vous nous avez très bien parlé de cette dame qui, elle, choisit d'aller nettoyer les océans avec sa fortune. Est-ce que ces ultra-riches qui se construisent ces murs... Est-ce que dans votre livre, vous le traitez comme une utopie, c'est-à-dire on arrête les migrants avec des murs? Est-ce que vous le traitez comme une utopie dans le sens on arrête la catastrophe écologique et on arrive à s'y protéger dans des bunkers? Comment vous traitez ce sujet dans votre livre, s'il vous plaît? Alors,
Moi, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur la question des utopies lors de ma prime jeunesse, quand j'étais étudiant et tout ça, et que j'ai même animé à une époque une collection, ça n'avait pas duré très longtemps, mais on avait republié comme ça certains textes utopiques, historiques. Donc c'est une question, ce monsieur d'ailleurs qui a employé le mot, ce n'est pas moi, mais c'est vrai que c'est une question qui est vraiment centrale pour moi, et je crois qu'elle l'est aussi dans la réflexion que porte ce livre. En fait, ces résidences sécurisées qui sont construites dans l'Altaï ou en Nouvelle-Zélande, ou comme Mark Zuckerberg, lui, l'a choisi Hawaï, je ne sais pas, il doit aimer le surf, j'imagine, je ne sais pas. Oui, ce sont des utopies. Ce sont des utopies au sens littéral du terme, c'est-à-dire que c'est quoi une utopie ? C'est un endroit où, c'est un espace d'abord, où il y a une logique de vie autonome régie selon des règles politiques et des règles sociales et morales indépendantes. C'est quand même ça, historiquement, les utopies. Alors après, les auteurs d'utopies n'imaginent jamais une société utopique sans prendre en compte la société qui est la leur. En réalité, il y a toujours une dimension critique dans l'invention d'une utopie. Mais ce que eux se font construire, c'est une forme d'utopie. Alors après, c'est une forme d'utopie dont on est en droit de juger qu'elle est plus ou moins vertueuse, qu'elle est plus ou moins souhaitable. Moi, ça ne me fait pas évidemment rêver comme modèle de société, vous vous en doutez bien. Mais si vous me posez la question, est-ce que ce sont des utopies ? Oui, je crois que c'en est une. Et c'est d'autant plus une utopie que c'est une utopie à laquelle ils ont accès et presque qui devient une possibilité de penser par l'argent. S'ils n'avaient pas l'argent, ils n'y penseraient même pas, parce qu'ils n'auraient pas les moyens de toute façon de se les faire construire. Donc oui, c'est une utopie, et c'est peut-être en ça d'ailleurs que c'est encore plus politiquement néfaste. C'est que c'est une utopie qui... Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. C'est une utopie confiscatoire, voilà. C'est-à-dire que, en faisant leur utopie, eux, eh ben, ils empêchent le commun des mortels d'avoir encore accès à des modalités de pensée utopique qui font qu'on peut imaginer une société meilleure. Quelque part, cette société meilleure, si elle peut être imaginée, elle leur est réservée. Et c'est terrible, évidemment. Donc après, est-ce que cette utopie est... Est-ce qu'on peut la retourner en son contraire et dire que justement c'est une dystopie ou c'est un monde peu enviable, voire infernal oui, on peut sans doute le penser. Enfin, vous voyez, les gens qui se font construire des résidences entières dans des anciens silos, des silos à missiles nucléaires, voilà. Là où on mettait les ogives nucléaires, c'est moi que je cherchais. Bon, il y a parmi ces gens-là, donc il y en a beaucoup qui achètent ces endroits-là. Ce qui est merveilleux d'ailleurs, je ne vais pas développer maintenant parce que ça nous emmènerait trop loin, mais là aussi, l'apocalypse nucléaire qui d'un seul coup se retourne et devient l'endroit où justement va se préserver contre le reste. C'est génial comme image. Donc c'est une société littéralement très verticale, c'est construit par étage. Donc en bas il y a toutes les souffleries etc. pour qu'il y ait un air respirable et puis juste au-dessus il y a la pisciculture parce qu'il faudra bien du poisson pour se nourrir et puis au-dessus il y a des espèces de jardins alimentés par lampes à UV pour que quand même il y ait de la végétation et de la botanique et du potager etc. Enfin, voilà. et c'est tout un monde comme ça réinventé dans la stratification à l'échelle d'un silo nucléaire qui va à je ne sais plus combien de dizaines de mètres dans le sol, mais bon, comme une espèce de monde inversé comme ça, sous terre. J'aurais tendance à penser que c'est assez une dystopie, ça, par exemple. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui vraiment investissent des centaines de millions de dollars pour se construire leur dystopie, là, voilà.
Bien. Dernière question, madame. Allez-y, puis on s'arrêtera après. Je vous en prie.
Bonjour et merci. J'avais une question, enfin je suis arrivée au milieu. Est-ce que vous avez aussi dans votre livre trouvé des inspirations dans un film qui s'appelle Don't Look Up ? Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Parce que
Alors, une inspiration. Enfin, j'ai pas puisé réellement grand chose, mais oui, je l'ai vu. Et évidemment, quand, par rapport au sujet sur lequel j'écrivais, je pouvais pas ne pas le voir, et c'était assez stimulant, quoi. C'était assez stimulant. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, on a assez peu parlé finalement, mais comme quoi, même quand on a du temps, on peut pas parler de tout. C'est la dimension un peu satirique du livre que je crois ou que j'espère être quand même drôle, malgré tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Et cette espèce de grand carnaval dans Look Up, on le voit aussi, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une dimension complètement carnavalesque, absolument, ouais.
C'est en effet aussi un livre drôle. C'est un grand livre. Je vous invite à aller le retrouver et l'acheter et faire signer ça à Mathieu dans un petit temps de dédicace. Bravo, cher ami, et merci.
Merci à toi. Merci beaucoup.